Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, le manifeste de la conférence de Bandung.
C'est en avril 1955 que va prendre politiquement corps ce que l'on va longtemps appeler le tiers-monde. Tiers-monde, une expression lancée par Alfred Sauvy en référence au tiers-État, celui de l'Ancien Régime. C'est dire l'appréciation portée sur la place de ces peuples, ignorés et exploités, dit-il, dans l'ordre du monde. À peine libérés de la colonisation ou encore dominés par des puissances occidentales, ils aspirent à être quelque chose. Ceux qui se sentent exclus de l'histoire espèrent à Bandung faire entendre leur voix dans ce climat qu'on appelle alors la guerre froide, où se font face d'un côté les États-Unis et leurs alliés européens, et de l'autre l'Union soviétique. C'est donc dans cette ville de l'île de Java que se retrouvent des dirigeants de puissance en gestation, comme l'Indien Nehru, le Chinois Chuen Lai ou l'Égyptien Nasser, sous la houlette du président indonésien Sukarno. Sont aussi présents des représentants de mouvements de libération en lutte, en particulier contre la France, comme le FLN algérien, le Néo-Destour tunisien et l'Istiklal marocain. On y retrouve donc tout à la fois des pays communistes, alors que la Russie soviétique n'est officiellement pas invitée comme membre, mais aussi des alliés des Occidentaux, comme la Turquie, membre de l'OTAN ou le Japon. Et même le Sud-Vietnam qui ne souhaite pas s'unifier avec un Nord communiste dirigé par Ho Chi Minh, autre figure qui vient de défaire les Français. Mais l'Amérique latine est absente. Au total, 29 États, 30 mouvements de libération constituent cette assemblée improbable. Bandung est un événement médiatique autant que militant. 400 journalistes parmi les plus connus du moment s'y pressent, mais aussi des observateurs mandatés par des puissances qui souhaitent prendre la température. Léopold Sédar Senghor, envoyé spécial du gouvernement français dont il est alors membre, ne va pas tarder à qualifier l'événement de « coup de tonnerre ». En sortira un communiqué final, un manifeste. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Delphine Alès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques, vice-président de l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Vous avez publié en 2021 « La part des dieux, religion et relations internationales » au CNRS Éditions. Et vous avez co-dirigé en 2023, toujours au CNRS, « Paix et sécurité ». Une anthologie...
Décentrée.
Bertrand Badi, qu'on ne présente plus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un de nos plus éminents spécialistes des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris, auteur de très nombreux ouvrages, je ne citerai que le dernier, « Vivre deux cultures, comment peut-on naître franco-persan ?» chez Odile Jacol en 2022, puisque non seulement vous êtes franco-persan, mais vous parlez le persan. Je vous poserai une première question. Pouvez-vous nous rappeler, Bertrand Badi, dans quel contexte a lieu cette conférence ?
Alors effectivement, vous avez raison. D'abord, le contexte est non seulement important de manière banale dans les relations internationales, plus particulièrement pour décrire et comprendre Bandung. Le monde change à une vitesse absolument extraordinaire. Pensez, on est en 1945... La puissance est à son zénith, elle vient de terrasser le monstre nazi, elle est en même temps efficace et vertueuse, et elle appartient à une toute petite minorité qui a donné naissance à ces fameux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, même s'il y avait une fioriture pour dissimuler déjà la dualité structurante entre l'URSS et les États-Unis. Et dans ce contexte s'opère probablement le processus le plus important du XXe siècle et qu'on n'a pas su bien étudier et que les acteurs ont probablement raté, c'est la décolonisation. Et la décolonisation, elle commencera pas n'importe où dans cette séquence post-Seconde Guerre mondiale, elle commencera en Inde. En Inde, en 1947, en août 1947, Et en Inde, déjà, les esprits s'échauffent avant même l'indépendance d'août 1947. On se réunit au printemps qui précède pour se demander si, après tout, l'Asie ne va pas constituer un morceau nouveau et décisif de cet ordre mondial jusque-là binarisé. Pas totalement, parce que les ruptures ne sont jamais absolues dans l'histoire. Vous me donniez du temps, mais vous m'en donnez pas, donc je serai bref, il faudrait remonter jusqu'à la guerre russo-japonaise. La guerre russo-japonaise, nous sommes en 1905, et pour la première fois, une puissance européenne est battue par une puissance asiatique, le Japon. Et ceci crée un début de prise de conscience qui va donner très vite des résultats surprenants. Par exemple, le chinois Sun Yat-sen, qui à Kobe en 1924, explique qu'il est tout prêt à se marier avec le Japon, que Japon et Chine sont les deux piliers extra-occidentaux de ce monde nouveau qui se profile. Alors, tout ça, ça annonce un terme un peu barbare qui s'appelle le panasiatisme. Et ce panasiatisme va s'approfondir parce que l'Indonésie, qui représente une population déjà importante, va glisser lentement, douloureusement et difficilement vers l'indépendance. Et puis
entre 45 et 49.
Voilà,
4 ans,
hein. Exactement. D'ailleurs, oui, mais il faudra attendre encore longtemps pour que la Nouvelle-Guinée papouasie, ou en tout cas la part néerlandaise devenue indonésienne de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, rejoignent l'Indonésie. Donc le processus va être très lent. Et puis vous avez des pays qui apparaissent, la Birmanie, dirigée par Aung San dans un premier temps, le père d'Aung San Suu Kyi, et qui va être assassiné, donc avoir un remplaçant qui est un personnage qui compte, parce qu'il va être un des acteurs de Bandung, il s'appelle UNU, et UNU va également jouer un rôle important. Puis vous avez aussi des pays qui accèdent lentement à l'indépendance, Ceylan, qui devient le Sri Lanka, avec un personnage très intéressant et très pro-occidental, c'est pour vous montrer le mélange, qui s'appelle Kotela Wala, et aussi un Pakistanais plus discret, mais qui va jouer un rôle important, lui aussi pro-occidental, membre d'une alliance militaire avec les États-Unis, qui s'appelle Mohammad Bogra. Tous ces gens-là discutent ensemble et prennent conscience du fait que désormais l'Asie, ça compte.
Et c'est pour ça que l'Amérique latine n'est pas présente.
Alors, on ne pense même pas à l'Amérique latine. La temporalité de l'Amérique latine est autre. Les pays d'Amérique latine, la plupart d'entre eux du moins, sont indépendants déjà depuis 130 ans. Et donc, ne sont pas sous les pleins phares de l'actualité, d'autant que la tutelle états-unienne sur l'Amérique latine, à l'époque, faisait que on n'en parlait pas trop, même s'il y avait là aussi un début de nationalisme à travers le péronisme et des choses comme ça. Et puis, il y a cette Afrique qui se profile. Alors, elle est presque pas indépendante. Il y a un petit décalage temporel. Il y a le Libéria et l'Éthiopie qui, eux, sont indépendants et qui sont présents. Et puis, il y a un État dont je voudrais juste dire un demi-mot, qui s'appelle encore la Gold Coast, la Côte d'Or, qui est semi-indépendant, un régime autonome.
Qui va devenir le Ghana.
Qui va devenir le Ghana, et qui a à sa tête un premier ministre qui en même temps a fait ses études aux États-Unis, donc est respectable, qui a dansé avec la reine d'Angleterre, donc c'est aussi respectable, mais qui représente alors un courant dont on reparlera, je suis sûr, qui n'est pas bien entendu le panasiatisme, mais qui est le panafricanisme. Et ce monsieur, c'est Kwame Nkrumah. Eh bien, Bandung, ça va être cette tectonique des plaques qui va réunir le panasiatisme et le panafricanisme. Bandung n'ira pas plus loin. On ne parle pas encore de non-alignement.
Hein. Delphine Alès, qui est pratiquement à l'initiative de cette conférence, Bertrand Badi montre bien que le centre de gravité était asiatique. Ce sont les cinq membres du ce qu'on a appelé le groupe de Colombo.
Oui, effectivement, la conférence de Colombo, alors qui émerge en 1954 dans un contexte de forte tension entre l'Inde et le Pakistan, préfigure d'une certaine manière la rencontre de Bandung. Le groupe de Colombo, donc composé de Ceylan, de l'Indonésie, de la Birmanie, du Pakistan et de l'Inde, se réunit dans la ville de Bogor en Indonésie en décembre 1954 et décide d'organiser cette conférence à Bandung, donc au centre de l'île de Java, quelques mois plus tard, et puis d'y associer les mouvements qui commencent à émerger dans l'ensemble du monde. Et celui qui est vraiment l'un des architectes centraux de la conférence de Bandung, c'est le président et père fondateur de l'Indonésie moderne, Sukarno, qui porte cette idée selon laquelle l'Indonésie, arrivée à l'indépendance après 4 années et demie d'une guérilla très dure avec les Pays-Bas, a d'une certaine manière une fonction, un rôle qui est de montrer la voie aux autres peuples colonisés. Et c'est vraiment cet esprit qui est derrière la conférence de Bandung, qui est finalement la première grande incarnation du principe central de la politique étrangère indonésienne, l'idée d'une politique étrangère qui doit être libre et active. Il s'agit non seulement de prôner l'indépendance, mais de le faire activement sans se laisser embringuer, embrigader dans une logique de bloc.
Une petite précision pédagogique, parce qu'on a en tête que les colonisations françaises ou britanniques sont des colonisations du 19e siècle. La colonisation néerlandaise de l'Indonésie, ça a 350 ans à l'époque.
Des finales.
Absolument. Et l'un des éléments qui ont contribué très fortement à la volonté d'indépendance de l'Indonésie, ça a été une autre colonisation, l'occupation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon est arrivé assez rapidement finalement à reprendre la main sur le territoire indonésien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'issue de la capitulation japonaise, les Indonésiens qui s'étaient organisés, qui avaient commencé à s'organiser en groupe, pour certains avec une dimension religieuse, pour d'autres avec une dimension plus nationaliste, pour d'autres encore avec ce qui était le ferment d'une logique d'émancipation, parfois alimentée par l'idéologie communiste, et bien commençaient à s'organiser depuis le début du XXe siècle et n'avaient évidemment aucune intention de voir revenir s'installer le colonisateur néerlandais. C'est ce qui a déclenché, avec une organisation de groupes armés dans différentes îles de l'archipel, ces mouvements autonomistes, parfois très violents, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, Delphine Alès, vous avez utilisé le mot esprit. Esprit de Bandung, c'est quoi l'esprit de Bandung?
Alors, l'esprit de Bandung, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord une volonté, et je crois que c'est important de l'évoquer, la conférence de Bandung ne se constitue pas contre les blocs de façon explicite. Il ne s'agit pas d'en créer un troisième. Il s'agit plutôt d'avoir pour la première fois cette grande conférence afro-asiatique. C'est la première grande conférence donc, qui rassemble, vous le disiez tout à l'heure, hein, 29 pays nouvellement créés, une trentaine de mouvements autonomistes. C'est la première fois qu'on a cette rencontre de peuples qui viennent d'accéder ou qui vont accéder à l'indépendance. Et il s'agit finalement d'entériner leur accession au sein du système international. Et la conférence de Bandung, c'est finalement un grand moment de socialisation dans le système international pour ces nouveaux acteurs ou ceux qui aspirent à le devenir. Et ce qui traverse véritablement l'ensemble des discours à la conférence de Bandung, alors certes ces discours reflètent des intérêts qui peuvent être assez différents, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais il y a vraiment une dimension universelle, universaliste derrière la conférence de Bandung. Il s'agit, et c'est d'ailleurs le premier des principes de la déclaration adoptée en conclusion de cette conférence, il s'agit de promouvoir les droits humains, il s'agit de promouvoir la charte des Nations Unies et d'une certaine manière de la localiser. Ce qui traverse aussi les revendications des États représentés à la conférence de Bandung, c'est l'idée que ces droits humains pour eux étaient globalement respectés, et c'est évoqué dans les discours à la conférence de Bandung, dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, eh bien il faut aussi les diffuser au Sud, et c'est d'ailleurs un des ferments de ces mouvements d'émancipation, l'idée qu'on a aussi le droit aux droits humains et d'une certaine manière à l'individualité.
Mais quand on regarde, si on est dans l'esprit de Bandung, si on regarde la déclaration et le communiqué final de la conférence, on est, je vais dire, dans des vœux pieux et timides. Ça n'est pas, Bertrand m'a dit, ce n'est pas offensif, ce n'est pas vindicatif.
Alors, c'est... Oui, vous avez tout à fait raison, et ça implique deux commentaires. Le premier est explicatif. Il faudrait dire un mot de l'arrivée de la Chine,
oui,
c'est-à-dire
on va y venir.
Du choix stratégique. Oui, mais la Chine est derrière l'esprit de ce communiqué. C'est-à-dire que la Chine se fait inviter, en fait, par la volonté, le volontarisme de Chuen Lai, Et la Chine, et Chuen Lai en particulier, qui fera preuve de beaucoup de bonne volonté tout le long de cette conférence.
Un numéro de charme extraordinaire.
Absolument, mais plus que de charme, c'est-à-dire de volonté de créer ce sudisme, pour employer un terme un peu anachronique maintenant, à l'époque.
En gommant toute la dimension communiste.
Alors, voilà, oui, mais justement... quand les pro-occidentaux de Bandung, le premier ministre pakistanais Mohammad Bogra et Kotela Wala, le Sri Lankais, veulent dénoncer l'impérialisme soviétique, Chuen Lai dit non. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est toute l'ambiguïté de ce qu'est la politique de la Chine dans les années 50, plus alignée sur Moscou, mais ne voulant pas pour autant... mettre Moscou et Washington, si vous voulez, dans le même panier. Donc, Chuen Lai va se mobiliser, au grand désespoir d'ailleurs de Nehru, qui est un peu au milieu de tout ça, pour imposer un communiqué à minima, justement. C'est-à-dire ne pas explicitement dénoncer les deux blocs. C'est pour ça qu'il y a un léger anachronisme quand on parle de non-alignement avec Bandung. Le non-alignement, il viendra...
En 1961.
Avant, la déclaration de Brioni, 56, l'année d'après, lorsque Tito va entrer dans le jeu. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et pour l'instant, et c'est ce que disait Delphine, c'est très très important, on est dans les principes et surtout deux lectures de ces principes. Pourquoi pas nous ? C'est-à-dire pourquoi ce droit dont il ne faut pas oublier qu'il est européen, d'essence, d'histoire, le droit international et même la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, pourquoi ce droit ne serait pas égal pour nous ? C'est la grande bataille des normes universelles qui a commencé à Bandung. Et le deuxième élément, c'est que ben nous... Afro-asiatiques, et c'est pour ça que l'absence de l'Amérique latine a un sens profond, nous, Afro-asiatiques, on a quelque chose à dire. Et il va y avoir une dénonciation du colonialisme, une dénonciation mesurée, parce que Mohamed Bogra, le Pakistanais, dit « dénoncez la France tant que vous voulez », mais à ce moment-là, moi, je veux dénoncer l'Union soviétique. Alors, on va dénoncer un peu moins la France. On va pas dénoncer les autres, ce sera pas question des colonies portugaises, par exemple, ce qui est assez intéressant. Et du coup, on est beaucoup plus dans l'affirmation, je dirais en même temps, de ce droit d'être et de cette réalité d'une essence afro-asiatique. Faut pas oublier, vous parliez du Japon et de la colonisation japonaise, qui a là des chefs d'État qui s'accommodaient fort bien de la colonisation japonaise. Unu n'a pas été opposé à la colonisation japonaise sur la Birmanie, et Nehru si, mais il y avait en Inde quantité de membres du Parti du Congrès qui étaient très proches du Japon aussi. Donc vous voyez, on n'a pas encore coupé les ponts avec ce Japon qui est présent hein, à Bandung, faut pas l'oublier.
Oui, je l'avais signalé dans mon introduction.
Ah bah vous aviez bien raison.
Voilà, et les représentants algériens vont repartir fâchés du reste, parce qu'ils auront le sentiment que leur lutte n'aura pas été suffisamment prise en compte. Mais Delphine Alès, pourquoi pas nous alors ?
Alors, peut-être pour revenir sur l'esprit de Bandung qu'on évoquait tout à l'heure, je crois qu'il est assez bien résumé par le discours qui est prononcé par Sukarno au moment de la conférence d'ouverture, qui s'intitule « Live and let live », vivre et laisser vivre, et vive la naissance d'une nouvelle Afrique et d'une nouvelle Asie. Cette idée, encore une fois, que il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire, on revendique une place égale à celle de tous les autres à la table des nations. Sur le plan des principes, celui qui est effectivement promu dans le discours de Chuen Lai, à travers ce numéro de charme et de modération que joue effectivement Chuen Lai pendant toute la conférence, c'est tout simplement le principe de la coexistence pacifique, l'idée selon laquelle la différence des systèmes politiques ou des systèmes économiques ne doit pas faire entrave à la coexistence et à la coopération internationale. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve d'ailleurs ce principe de coexistence pacifique aujourd'hui dans énormément de dispositifs de coopération régionale en Afrique et en Asie en particulier. particulier. Et donc, c'est un principe, c'est une norme qui, effectivement, n'est pas révolutionnaire, mais qui a eu une pérennité internationale bien au-delà de la conférence de Bandung, parfois, d'ailleurs, au grand désespoir, vous l'évoquiez tout à l'heure, de certains des participants à la conférence qui auraient espéré que le communiqué final soit plus engagé. Mais on a trouvé, et c'est d'ailleurs un des apports normatifs aussi de la conférence de Bandung, a émergé dans ce contexte-là une pratique de la diplomatie qui est celle du consensus et de la délibération pour arriver parfois à des accords à minima autour de grands principes comme celui de la coexistence pacifique autour desquels chacun pouvait trouver un accord.
Il y a quand même deux ciments quand on lit bien à la fois les interventions pendant cette conférence et le communiqué final. Pas le communiqué d'ailleurs, pas les 10 principes finaux, mais la déclaration finale qui est plus complète. C'est, vous l'avez dit, Bertrand Badie, la dénonciation du colonialisme, mesurée mais répétée, et la dénonciation du racisme. C'est au fond ça les. Je sais pas si vous.
La dénonciation de l'apartheid en particulier.
Et de l'apartheid, bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui était utilisée par un écrivain journaliste Richard Wright, américain, afro-américain, qui opposait le rideau de couleur au rideau de fer est-ouest. Est-ce qu'il y a eu à Bandung une sorte de rideau de couleur qui a été installé entre le nord et le sud?
Delphine Alès.
C'est pas du tout présent dans l'esprit de Bandung. Il n'y a pas une dimension ni anti-occidentale, ni anti-blanche dans les discours qui sont prononcés. Il y a une grande joie liée au fait d'organiser cette première rencontre des peuples de couleur, et c'est présenté de cette manière-là, c'est explicite. C'est une source d'enthousiasme de la part des participants à la conférence, mais ça n'est pas présenté comme une source d'opposition vis-à-vis des autres. On ne construit pas un autre qui serait un autre blanc. Il y a une dénonciation qui est celle de l'impérialisme ou de la pratique de l'impérialisme, mais qui n'est pas du tout lié à ce qui aurait l'apparence d'un différentialisme qui serait racial ou culturel ou religieux.
Inversé.
Absolument pas. C'est absolument pas présent dans Bandung. Il y a vraiment une revendication, encore une fois, d'égalité et d'universalisme. Et l'idée que les peuples de couleur ont droit, encore une fois, d'être assis à la table des autres nations de la même manière et sans exclusion.
Par conviction ou par prudence, à votre avis, Bertrand Badie, cette...
Alors, peut-être par quelque chose d'autre, qui est que ce qui est frappant dans la déclaration, c'est l'attachement à la Charte des Nations Unies. Moi, j'interpréterais Bandung comme étant véritablement le monde appartient à tout le monde. Nous sommes les vrais défenseurs de ce fameux préambule de la Charte, nous, peuple du monde, etc. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, dans le communiqué final, il y a même une revendication très précise sur la nécessité de recomposer le Conseil de sécurité qui ne laisse pas suffisamment de place aux États du Sud. Vous voyez déjà, que le débat présent...
Et avant même de recomposer le Conseil, d'admettre à l'ONU une partie des pays qui sont présents à Bandung et qui ne sont pas encore membres de l'ONU.
Dont la Chine, d'ailleurs. Dont la Chine de Pékin.
Dont le Japon.
Et le Japon, effectivement, qui, comme l'Allemagne, était puni puisqu'il n'appartenait pas au club des vainqueurs.
D'ailleurs, ils vont rentrer quand tous peu de temps après Bandung, non
Le Japon va rentrer peu de temps, effectivement, après. L'Allemagne va attendre un bon bout de temps, mais enfin, on est dans le Nord.
Est-ce que les pays asiatiques, c'est un effet de Bandung qu'ils aient été, au fond, assez rapidement ensuite
Alors, c'est très compliqué parce que, comme toujours dans ces situations multilatérales, il y a des calculs stratégiques, c'est-à-dire... On est dans le contexte de la guerre de Corée, où le Conseil de sécurité ne fonctionne plus, et où donc on retourne vers l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la fameuse résolution Hutchison, qui est très bien connue, sur laquelle je ne reviendrai pas. Et là, tout le monde a peur, dans les grandes puissances. Est-ce que avec le processus de décolonisation, on va garder la majorité ou est-ce qu'on va être mis en minorité? Et ça, c'est très important, parce qu'il faut jamais oublier le caractère asymétrique des rapports entre les États-Unis et l'URSS. L'URSS reste encore dans la ligne du congrès de Bakou, c'est-à-dire congrès qui s'était tenu en 1923 des peuples colonisés et où le bolchevisme voulait se représenter comme étant l'agent émancipateur porteur de ces peuples décolonisés. Ça va rebondir après, lorsqu'il y aura la tricontinentale. Et,
on y reviendra tout
voilà,
à l'heure
justement,
sur la tricontinentale, Bertrand Badi.
Pour l'instant...
Quelle va être justement l'attitude à la fois de l'Union soviétique et des États-Unis face à cette conférence de Bandung?
Ils vont tous les deux miser sur un élargissement de l'Assemblée générale qui, s'il est contrôlé, devrait leur être favorable. Et finalement, c'est quand même les États-Unis qui ont perdu la bataille. Puisque on va arriver peu à, 15 ans après, au début des années 70, où là, les États-Unis vont être battus dans toutes les résolutions au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est-à-dire que l'afro-asiatisme ne se préoccupait pas de ce genre de questions. Il s'agissait...
D'autant que c'est en Asie que les communistes vont gagner d'une certaine manière, puisqu'il y a déjà le Vietnam, et puis après il va y avoir d'autres pays qui vont tomber dans l'escarcelle.
Oui, mais il ne faut pas oublier que l'Union soviétique a toujours joué un rôle dans le processus de décolonisation en Afrique, et va avoir des alliés africains. Lumumba, quand même, ça va être ça, et nous sommes en juin 1960. Et puis le Mali dont on parle aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir de Modibo Keïta lorsqu'il va rompre ses liens avec le Sénégal, la fameuse fédération du Mali, va se tourner vers l'URSS. Une des grandes figures quand même de la décolonisation africaine, Sékou Touré, va devenir un proche de l'Union soviétique. Donc, véritablement, il y a une compétition entre les deux tuteurs. À Bandung, cette compétition entre les deux tuteurs, contrairement à la reconstruction qu'on en fait a posteriori, n'était pas aussi présente dans l'esprit de gens qui voulaient s'affirmer comme tels et qui n'étaient pas encore en train de se dire « Eh ben, il faut un troisième pôle. »
Destin Alès, vous êtes d'accord avec tout ça ?
Oui, alors les États-Unis, comme l'Union soviétique, ont tous les deux essayé de coacher d'une certaine manière leurs alliés en amont de la conférence. On sait qu'ils s'intéressaient à ce qui allait se passer à la conférence de Bandung. On sait que des mémos circulaient auprès des diplomates pro-américains ou pro-soviétiques. On sait que le discours, par exemple, du représentant du délégué des Philippines avait circulé à Washington avant d'être prononcé à la conférence de Bandung, ce qui a contribué indirectement, finalement, à aboutir à un consensus qui était relativement modéré, puisqu'ils se sont mutuellement neutralisés. Les alliés des États-Unis n'ont pas obtenu une dénonciation explicite du caractère impérialiste de l'Union soviétique vis-à-vis des autres puissances et notamment du monde récemment décolonisé. Finalement, celui qui émerge, on l'évoquait tout à l'heure, comme le grand gagnant de la conférence de Bandung, c'est Chou En-lai, ce qui était finalement moins anticipé par les États-Unis et par l'Union soviétique. Il y a un incident qui a largement contribué d'ailleurs à l'aura de Chou En-lai en amont, juste avant la conférence de Bandung, c'est cette tentative d'attentat contre l'avion
de Chou En-lai,
le prince Cachemire de la délégation chinoise. Chou En-lai en a échappé au dernier moment, probablement l'information avait circulé, mais l'avion a quand même décollé sans Chou En-lai, ce qui a permis évidemment qu'il arrive avec l'aura de celui qui venait d'échapper à un attentat qui aurait été perpétré ou préparé par le Kuomintang. C'est en tout cas le discours qui a circulé à Bandung et qui lui a permis bien évidemment de contribuer,
de prendre de l'ascendant
sur Nehru, qui pourtant est celui qui avait beaucoup insisté pour l'inviter. Et Chou En-lai a obtenu un engagement de la part des participants à la conférence de Bandung pour l'entrée de la Chine aux Nations Unies en 1971. Donc ce qui a beaucoup contribué évidemment à la place, au renforcement de la place de la Chine dans le système international.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple aux États-Unis, et notamment aux États-Unis, une forme quand même de condescendance à l'égard de cette réunion? Je crois que c'est Foster Dulles, le secrétaire d'État, qui parle de pseudo-conférence afro-asiatique.
Oui, alors d'abord...
Bertrand Badi.
Oui, de ce que j'en ai vu, mais là, peut-être mes recherches n'étaient pas suffisantes, il y a une relative indifférence.
C'est négligeable.
Voilà, c'est négligeable. Et il faut voir aussi le mépris dans lequel la Chine de Mao était tenue aux États-Unis. Vous savez que l'année précédente, il y a eu la fameuse conférence de Genève sur l'Indochine, qui a quand même été un des grands tournants dans les relations internationales et dans les rapports Nord-Sud.
Et déjà un grand succès de Chou En-lai.
Alors oui, mais le Chou En-lai en question arrive à Genève, tend la main à Foster Dulles, qui répond « I cannot », je ne peux pas, et il s'en va. Et petite parenthèse, lorsque Kissinger sera mandaté par Nixon pour rétablir des relations entre Washington et Pékin...
En 1973.
Voilà, exactement. Chuen Lai est en bas de la passerelle, Kissinger descend de la passerelle et tend la main à Chuen Lai. Et Chuen Lai lui dit, tiens, je voulais voir si vous alliez vous me tendre la main. Donc c'est très intéressant parce que il y a le paradigme de l'humiliation chinoise qui ne faut jamais laisser de côté, et il y a, lui faisant écho, cette incompréhension de l'administration républicaine de l'époque qui ne voit pas, qui ne comprend pas que est en train de poindre à l'horizon la mondialisation et d'émerger un Sud dont on voit maintenant qu'il a toute son ampleur. Et c'est ça véritablement, Bandung.
Excellente transition avec la postérité.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Leski.
Bandung, ça va avoir un écho dans l'ensemble des pays, et on pense même jusqu'à Malcolm X qui va s'en inspirer, Delphine Alès, et qui dira pourquoi ne pas faire un Bandung à Harlem.
Oui, effectivement, il y a toute une mythologie de la conférence de Bandung, puis du non-alignement qui émerge ensuite dans les années 60 et qui prolonge cet esprit de Bandung. Alors, c'est intéressant de voir effectivement que le vocabulaire de Bandung et du non-alignement reste aujourd'hui assez présent dans le discours de nombreux États sur la scène internationale, sans pour autant correspondre exactement à ce qu'était l'esprit Bandung que nous évoquions tout à l'heure. Au-delà de la mythologie, on s'aperçoit aujourd'hui que cette notion de non-alignement renvoie désormais beaucoup moins à cette idée de co-construction de l'universel, à cette idée d'intégration au sein d'un système international qui serait égalitaire, et à cette idée, on l'évoquait tout à l'heure, de finalement renforcer le poids de l'Assemblée générale contre celui du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, le non-alignement, c'est beaucoup plus finalement une approche un peu individualiste ou nationaliste des relations internationales qui consiste à revendiquer la possibilité de choisir ses alliances ou de les multiplier indépendamment de la situation globale du système international. Néanmoins, il reste un certain nombre d'États qui continuent à promouvoir l'esprit de Bandung. C'est particulièrement le cas du pays organisateur de la conférence, l'Indonésie, et qui continue à diffuser cette idée dans son vocabulaire de relations internationales, dans sa politique étrangère. Ça semble anecdotique, mais en réalité, ça ne l'est pas. L'Indonésie a rénové le musée de la conférence de Bandung sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et de son département de la diplomatie publique. Donc vous pouvez le visiter aujourd'hui. Vous pouvez refaire la marche des chefs d'État entre l'hôtel Savoie Oman auquel ils étaient hébergés et l'immeuble Merdeka, Liberté, où se tenait la conférence de Bandung qui abrite aujourd'hui ce musée. Et on continue de jouer beaucoup sur cette image. Alors, de façon symbolique, c'était assez intéressant au moment du 60e de la conférence de Bandung. Le président indonésien Joko Widodo a organisé une nouvelle marche entre le Savoie Oman et l'immeuble Merdeka, réinvitant les chefs d'État présents à la conférence. Ils n'y étaient pas tous, mais la Chine en particulier était présente à ce 60e anniversaire et avec une posture qui était un petit peu différente de celle de la conférence de Bandung, beaucoup moins modeste que ne l'avait été Chuen Lai à l'époque, et affirmant cette fois une approche beaucoup plus différentialiste et beaucoup plus anti-occidentale que ne l'était le discours en 1955. L'anniversaire de la conférence de Bandung, ça a été une dénonciation en particulier du modèle occidental de développement et d'aide au développement au profit d'une promotion des nouvelles routes de la soie promues par la Chine et du modèle de développement à la chinoise, donc avec une présence beaucoup plus marquée.
Bertrand Badi, justement, Fidel Castro, je pensais en fait à la tricontinentale, puisqu'il va y avoir une critique révolutionnaire de la conférence de Bandung et qui va de nouveau mettre l'Amérique latine, alors, pour le coup, au centre.
Il faut faire très attention, parce que je crois qu'il n'y a pas eu une postérité de Bandung. D'ailleurs, il n'y a jamais une postérité unique d'aucun événement, mais il y en a quatre. Il y a quatre post-Bandung. Et c'est peut-être dans cette pluralité que l'on comprend la complexité de la chose. La première postérité, elle est presque immédiate. C'est l'année suivante, en 1956. Trois des plus importants ténors de Bandung, à savoir Sukarno, Nehru et Nasser, dont on a peu parlé, l'Égyptien Nasser, se retrouve avec un quatrième personnage qui, lui, n'était pas à Bandung, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, qui est Tito. Et
le Yougoslave.
Le Yougoslave Tito, qui venait clairement, déjà depuis un certain temps, d'ailleurs, de sortir de l'orbite soviétique. Et ça, c'est très intéressant, parce que cette première postérité va prendre cette dimension internationale du non-alignement, c'est-à-dire cette référence à deux blocs dont on ne veut pas être les otages, et ça va donner naissance au mouvement des non-alignés qui va être officialisé dès 1961 et qui continue, qui prospère, qui compte 120 membres aujourd'hui, c'est-à-dire la grande majorité, l'écrasante majorité des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Mais est un peu une fiction, Bertrand Badie.
Oh ouais, enfin, comme vous y allez, c'est pas une fiction, il y a des réunions. On va continuer parce que vous allez voir, la fiction, elle va prendre des formes différentes, justement. Mais
restons sur les quatre héritages de Van Doom que vous avez commencé à développer.
Bon, ben, en voilà déjà un, et qui est la traduction, je dirais, relations internationales de Van Doom, parce qu'on n'était pas encore carrément dans les relations internationales, on était dans l'affirmation d'un morceau du monde. Le deuxième héritage, c'est une radicalisation de ce non-alignement avec un événement dont il faut absolument parler, qui est la conférence d'Alger en 1973, où tous ces gens-là trouvent un nouveau dénominateur commun qui n'a plus rien à voir avec, enfin, un rapport lointain avec la déclaration de Van Doom, qui est le nouvel ordre économique mondial. C'est-à-dire, on en a marre d'être des dépendants, vous savez que ce terme a été très à la mode à l'époque, il faut construire un nouvel ordre économique mondial. Les petites choses faites suite à la décolonisation des Nations Unies, c'est-à-dire notamment la création de la CNUSED qui marche pas très très bien, ne suffisent pas. Et donc, la deuxième postérité de Van Doom, c'est cette revendication d'une transformation économique du monde. Et puis, parce que ça se profilait déjà avant, il y a la postérité militante de Van Doom, c'est-à-dire ce que les radicaux de Van Doom voulaient mettre en avant, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, qui va se rapprocher du camp soviétique, grâce à un personnage qui, entre-temps, a fait son apparition en 1959, qui est Fidel Castro, dont vous parliez tout à l'heure, qui va convoquer à La Havane la tricontinentale, avec un personnage qu'on aura pris soin de supprimer entre-temps, qui est le Marocain Mehdi Ben Barka, et le Cubain Castro et le Marocain Mehdi Ben Barka vont refonder Van Doom à partir d'un esprit militant, décolonisateur, presque post-colonial, dirait-on maintenant.
On est en 1966.
Là, est en 1966, et effectivement, il faut lire les choses telles qu'elles sont. L'URSS, par l'intermédiaire de Castro, reprend la main, comme à Bakou, sur ce mouvement de décolonisation, et en fait, clairement, un instrument anti-impérialiste, anti-américain. On est en 66 et en pleine guerre du Vietnam, donc c'est facile de s'affirmer dans cette posture, et on est dans un temps où la colonisation, les empires coloniaux sont loin d'être dissous.
Et alors le quatrième?
Et enfin,
Bertrand Badie.
La quatrième incarnation de Van Doom, ça va être en fait tout autre chose, c'est-à-dire la tentative présente de convertir, Delphine y faisait allusion à mon semi-couvert tout à l'heure, de convertir le non-alignement dont on avait cru que c'était l'aboutissement de Van Doom en quelque chose de tout à fait intéressant qui est le multi-alignement. Et d'ailleurs, on passe du non-alignement qui est du passif, c'est-à-dire nous, on ne veut pas se mêler de ces trucs-là, au multi-alignement qui est de l'actif. C'est-à-dire, vous allez voir, nous, on va prendre les choses en main et on va faire ce que je me permets d'appeler de ce terme un peu pornographique, d'union libre diplomatique. C'est-à-dire, c'est fini le temps des alliances. Les alliances qui étaient déjà dénoncées, à Van Doom, faut pas l'oublier. Mais là, on va reprendre les choses du monde en main. Les blocs se sont effondrés. L'hégémonie occidentale elle-même a été battue partout. La Russie est en train de montrer sa faiblesse. On reprend la main. On reprend la main et on s'occupe de tout.
Mais cette union libre, Delphine Allès, c'est un peu le désordre du monde.
Oh, pardon.
C'est plutôt une réaffirmation de l'autonomie des acteurs, et en particulier des acteurs du Sud, dans un contexte où on considère qu'il y a eu un échec du projet universel et un échec en particulier du multilatéralisme onusien, dont la pratique est jugée très insatisfaisante par les États du Sud, qui considèrent que nous ne sommes pas dans un système qui permet de mettre en œuvre ou de pratiquer l'égalité souveraine qui était revendiquée, qui était proclamée par la Charte des Nations Unies. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une forme de renationalisation des projets. On ne poursuit plus un projet de construction globale et inclusive, mais en revanche, on revendique effectivement la possibilité de s'associer, à défaut de s'allier, avec qui l'on souhaite, et parfois de façon contradictoire. C'est le cas de l'Inde, qui promeut effectivement aujourd'hui une politique extérieure multi-alignée qui lui permet de prolonger ses coopérations de défense avec la Russie, tout en signant de nouveaux partenariats avec les États-Unis ou avec la France.
Mais là, en amont, si je puis dire, des quatre héritages que dessinait Bertrand Badie, il y a une singularité, c'est qu'il n'y a pas eu de suite à Bandung. Il était prévu une deuxième conférence. Pourquoi est-ce qui vient avant même la conférence de la tricontinentale en 66. C'était prévu 10 ans après, en 65, à Alger. Et puis ça ne se fait pas. Alors il y a
le coup d'État.
Il y a le coup d'État Boumédienne à ce moment-là, mais fondamentalement, on a l'impression qu'à ce moment-là, le projet ou l'aspiration exprimée à Bandung, au fond, n'est plus pertinente, parce que le monde a éclaté un peu dans tous les sens à ce moment-là.
Est-ce que l'esprit se perd, Delphine Hellès ?
Je ne pense pas que l'esprit se perd, parce qu'il est incarné ensuite dans le mouvement des Nolaniniers qui émerge en 1961 à Belgrade. Et puis, il y a un autre événement, par ailleurs, qui est la chute du régime Sukarno en 1965, qui met aussi un coup d'arrêt évidemment à ce projet. Et bien avant cela, il y avait eu aussi une forme côté indonésien de mouvement vers l'Est, hein, progressivement, et vers la Chine, de la politique extérieure de Sukarno, qui n'est plus aussi non-aligné que le souhaitait le président indonésien en 1955, mais qui devient de plus en plus contestataire. Et donc la prolongation de Bandung pour le Sukarno de 1962-1963, c'était la volonté de créer une conférence des nouvelles forces émergentes et une sorte d'axe Pékin, Hanoï, Pyongyang, Jakarta, dont l'Indonésie aurait été l'instigatrice. Il y avait même eu une volonté entre 1964 et 1965, sur la fin du régime de Sukarno, de créer une organisation alternative aux Nations Unies pour contester ce qu'il considérait comme étant une politique parfois néocoloniale de l'Organisation des Nations Unies. L'Indonésie est le seul pays à ce jour à avoir quitté pendant un peu plus d'une année l'Organisation des Nations Unies et à avoir tenté de créer une organisation alternative qui n'a pas du tout fonctionné, parce que la volonté de la plupart des États, y compris les très grands comme la Chine, était in fine d'entrer dans l'Organisation internationale universelle. Mais voilà, c'est cette accumulation de circonstances qui font qu'il n'y a pas eu de prolongation directe ou explicite de Bandung, mais on retrouve quand même cet esprit, encore une fois, dans le non-alignement.
Et encore aujourd'hui, on a encore cela, cet esprit de Bandung. Est-ce que ça fait encore référence dans les relations internationales entre les pays du Sud, ou est-ce que c'est complètement oublié?
Alors, d'abord, Bertrand Badie, je me permets de me répéter. Il y a les esprits de Bandung, hein. Il n'y a pas l'esprit de Bandung. C'est-à-dire, il y a les différentes interprétations. J'en ai proposé quatre. Delphine a bien montré aussi la complexité.
Alors, des quatre, laquelle est encore la plus dynamique?
Je crois que c'est celle qui est actualisée. Le pari indien, personne ne sait ce qu'il en sera dans 5 ans ou dans 10 ans, est quand même quelque chose de très fort. Moi, je suis très étonné que l'on ne commente pas ces réorientations fondamentales des relations internationales. Dès que Poutine dit la moindre bêtise ou Monsieur Biden bafouille la moindre chose, vous avez des éditions spéciales. Là, cette façon d'annoncer quelque chose de patent, parce que le multi-alignement, c'est celui du roi Salman d'Arabie Saoudite, qui était d'ailleurs à Bandung, hein, enfin pas lui, pas Salman, mais le prince Faisal. C'est aussi les Émirats Arabes Unis, c'est le Soudan, c'est le Pakistan. Pensez que le Pakistan et l'Inde, qui n'ont cessé d'être en guerre depuis la partition, sont exactement sur la même posture diplomatique de l'union libre diplomatique.
Alors que leurs frontières restent fermées.
Et comment fermer? Donc, ce que je crois vraiment de la postérité des esprits de Bandung, c'est ces trois choses qui peut-être réunissent tout ça. C'est premièrement l'idée que, pour parodier un titre d'un bouquin que j'avais commis, nous ne sommes plus seuls au monde, c'est-à-dire vous, les euro-américains, vous n'êtes plus seuls au monde. Et c'est fini, ça. D'ailleurs, les grands foyers conflictuels, si on fait exception du conflit russo-ukrainien, sont maintenant au sud. Donc, il va falloir les faire entrer en ligne de compte. Les grands enjeux de sécurité globale, qui sont les plus meurtriers, les plus létaux, ils sont fixés essentiellement au sud, y compris les problèmes climatiques et les problèmes sanitaires, bien entendu. Donc, voilà. Un, le sud existe. Et il est en passe d'être majoritaire, sur bien des rubriques, il l'est déjà sur le plan démographique, donc il va falloir travailler avec. Deuxièmement, nous entrons dans un monde fluide, c'est-à-dire dans un monde où ces alliances qui étaient dénoncées à Bandung, déjà, n'existent plus, sauf l'OTAN, et c'est une façon de ringardiser l'OTAN. On est si fiers de dire « Oh, l'OTAN renaît grâce aux bêtises de Monsieur Poutine ». Mais c'est complètement faux. L'OTAN, quand vous êtes en Afrique ou en Asie, est regardé comme une citadelle de l'entre-soi qui suscite beaucoup plus de méfiance que de confiance. Ça aussi, c'est un grand tournant, n'est-ce pas ? Et puis, le troisième élément, c'est que dans cette espèce, non pas de déclin, ce mot est stupide, de l'Occident ou du Nord, etc., il y a l'idée qui commence à bruisser que face à cette incapacité des pays du Nord de régler leurs problèmes, c'est peut-être pour la première fois depuis Adam et Ève, les pays du Sud qui vont s'en charger.
Oui, mais Delphine Alès, les pays du Sud vont s'en charger, mais est-ce qu'on sent une convergence, je dirais, intellectuelle ou d'intérêt ? Ça donne plutôt le sentiment d'un éclatement plus que d'une convergence, aujourd'hui.
Oui, il y a effectivement un éclatement des intérêts. Il est difficile d'identifier ce Sud global dont on parle énormément. Il y a énormément de différences de conditions, de différences de velléités, de différences d'intérêts ou de relations.
En ce sens-là, c'est un peu l'inverse de Bandung, non ?
Je pense qu'il reste certains éléments, si on revient encore une fois sur les discours qui étaient prononcés au moment de l'ouverture de la conférence de Bandung, il y a des éléments qui ont suscité peut-être peu d'attention à l'époque, mais qu'on retrouve aujourd'hui, paradoxalement, au centre d'une partie des programmes ou des projets des organisations internationales globales. Le Japon, par exemple, avait axé tout son discours sur le bien-être, le welfare, l'idée selon laquelle le développement était une condition de la sécurité. Ça semblait très précurseur. À l'époque, on n'en a plus reparlé jusqu'aux années 90 au sein du système onusien. Donc ce sont des choses qui restent aujourd'hui dans l'élargissement des préoccupations du système international. La notion de coexistence pacifique dont on a parlé tout à l'heure reste un des principes phares de la coopération régionale en Asie et un des principes au centre, par exemple, du forum régional de l'ASEAN et un des principes que cette organisation essaye de promouvoir de manière plus large sur la scène internationale. Donc, même s'il y a eu une forme de délitement, effectivement, du projet universel de Bandung, on retrouve néanmoins des éléments de normes internationales qui sont apparus pour la première fois dans ce contexte-là et qui restent aujourd'hui présents dans le discours ou dans les aspirations des États participants.
Un exemple, vous évoquiez, Bertrand Badi, le conflit russo-ukrainien. Est-ce qu'on peut analyser, par exemple, le vote qu'il y a eu à l'ONU qui a écarté la Russie de la Commission des droits de l'homme. 93 pour, 24 contre, 52 ou 53 abstentions, c'est-à-dire presque autant d'abstentions et de contre que de pour sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une forme de est-ce que c'est une manière pour les pays du Sud, parce que c'était quand même eux qui étaient dans les contre ou dans les abstentions, est-ce que c'est une manière de dire, écoutez, c'est pas notre affaire. C'est plus notre affaire, ça n'est pas notre affaire et on ne veut pas que ce soit notre affaire.
Bertrand Badi.
Alors, c'est un des aspects. Vous avez tout à fait raison. Je prendrais peut-être pas le vote sur l'exclusion du Conseil des droits de l'homme parce que il interférait des questions procédurielles.
C'est le plus équilibré. C'est pour
oui,
ça.
Mais même si vous prenez le dernier, qui est un an après la condamnation de la Russie.
Celui de mars 23, là, celui qui vient de se...
Oui, bah, vous avez quand même plus de 50 États qui soit votent contre cette condamnation, soit s'abstiennent, soit ne participent pas au vote, alors que toute personne normalement constituée ne peut que constater que la Russie a violé le droit international.
Or, qui a été défendu à Bandung comme un principe fondamental.
Exactement. Alors, ce que vous avancez comme hypothèse, moi je la reprends à mon compte. D'abord, c'est pas notre truc. Vous n'avez pas su vous débrouiller pour construire une architecture de sécurité collective post-bipolaire. Et là, vous avez tout à fait raison. Mais il y a deux ou trois petits éléments qui, justement, viennent nuancer l'idée qui semble consacrée d'un Sud fragmenté. Il y a d'abord une exaspération commune face à une marginalité pérenniser des pays du Sud. Il y a un événement qu'on a un peu oublié, qui était un peu dans l'esprit de Bandung. En 2010, lorsque le président brésilien Lula, c'était lui à cette époque, et le premier ministre à l'époque turc Erdogan, avaient combiné un accord sur le nucléaire iranien. Et à ce moment-là, la réaction des autres, c'est-à-dire du 4 plus 1, du 5 plus 1, excusez-moi, du 5 plus 1, a été de dire, mais ils n'ont pas à se mêler, ça c'est l'affaire des grands, c'est pas l'affaire des nouveaux riches, des parvenus, des machins.
Les 5 plus 1, c'est le Conseil de sécurité.
C'est le Conseil de sécurité plus l'Allemagne.
Plus l'Allemagne.
Qui était partie du fameux traité du 14 juillet 2015, que M. Trump ensuite a déchiré. Bon, cette initiative est très intéressante parce que Lula et Erdogan sont un peu des enfants de Bandung, aussi chacun à leur façon, d'une manière très différente. Et notamment chez Lula, cette obsession très forte qui est typiquement bandungienne de promouvoir la coopération Sud-Sud. C'est un point dont on a peu parlé, mais qui est y compris dans la déclaration de Bandung. Et Lula considérait que deux pays comme la Turquie et le Brésil étaient maintenant majeurs sur la scène internationale. On les a balayés, bousculés. Donc le deuxième élément, c'est de dire, mais mes amis, nous nous entendons compter. Et puis, le troisième élément, il y a quand même cela, c'est-à-dire ce sentiment que l'on n'en a pas fini avec la décolonisation, que faut quand même bien noter un truc effrayant pour la France, c'est que 9 États africains francophones sur 16 ont refusé de condamner la Russie. 9 sur 16, y compris le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, c'est-à-dire plutôt des modèles de France-Afrique qu'il fut un temps. Et voyez, ça c'est les trois réflexes combinés qui donnent une certaine unité quand même à ce Sud et qui explique pourquoi la Chine a moins de mal que les autres pour banaliser ses relations avec les pays du Sud. Il y a toujours une prévention. Ce que disait Kotela Walla n'est pas totalement éteint, mais il y a toujours cette idée que finalement la Chine est des nôtres, alors que ni la Russie ni le monde occidental ne l'est.
Oui, mais en même temps, Delphine Alès, dans la déclaration en 10 points, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais la caractéristique aujourd'hui du Sud, c'est d'être un peu défaillant sur ce sujet-là.
Et pas le Nord.
Moins le Nord.
La Russie respecte les droits de l'homme, la Hongrie aussi, Israël également. Ah oui, c'est formidable.
Mais c'était peut-être.
Sans compter que l'Allemagne a un passé impeccable sur le plan de la démocratie et des droits de l'homme.
Vous pensez pas qu'aujourd'hui, la référence quand même, malgré tout, des États, en particulier d'Europe, c'est une référence des droits de l'homme et des droits sociaux
quand ça les arrange.
Que le Sud n'arrive pas à mettre en œuvre?
Quand ça les arrange, mais sinon on va picorer dans le Sud de bonnes dictatures que l'on va utiliser à ses fins diplomatiques. Je pense à l'Égypte, je pense à la moitié des États africains. Non, arrêtons avec ça.
Delphine Alès.
Sur la référence normative aux droits de l'homme, il y a clairement une évolution du consensus qui était présent à Bandung, où l'idée était qu'il fallait s'approprier cette notion pour mettre en œuvre les droits de l'homme au Sud, ou en tout cas dans les États nouvellement constitués. Le nouveau consensus depuis les années 90, hein, paradoxalement, au moment où on estimait précisément que le libéralisme l'emportait à l'échelle mondiale, le nouveau consensus, c'est un consensus différentialiste qui surfe sur l'appropriation de la référence au choc des civilisations et de l'idée que la coexistence pacifique, ce serait finalement chacun chez soi et ne nous mêlons pas des affaires des autres, avec l'idée que les droits de l'homme ne seraient plus aussi universels qu'on l'espérait dans les années 40 et 50, mais seraient une manière de diffuser des références occidentales. S'il y a un échec de Bandung, c'est probablement celui-là.
Et s'il y a une conclusion à faire, Bandung, j'ai envie de la, et vous réagissez brièvement, de la confier à Aimé Césaire. Il y a un an après Bandung, une réunion, un colloque à Paris des écrivains noirs qui se passe à la Sorbonne. Et Césaire dit ceci, je vous demande de réfléchir à ces deux dates. En 1885, l'Europe se réunissait à Berlin pour se partager le monde. En 1955, le monde s'est réuni à Bandung pour signifier à l'Europe que le temps de l'Empire européen est fini. C'est au fond un peu ça quand même qui se dit au bout du compte à Bandung.
Delphine Alès.
Il se dit à Bandung que les empires ou les impérialismes devraient être finis au profit de l'indépendance et de l'égalité des peuples.
Et aujourd'hui justement la Chine, est-ce que ce n'est pas une forme d'impérialisme aux dépens des peuples?
Certainement. Il y a
Bertrand
une
Badie.
Prétention évidente de la Chine à la domination, pas sur le modèle américain. D'ailleurs, Chuen Lai l'avait dit très clairement, l'hégémonie occidentale a été plus coûteuse que rémunératrice. Mais simplement, il faut voir une toute petite chose qui, dans l'esprit des dirigeants du Sud, en est une grande. C'est-à-dire la Chine a fait partie de ceux qui étaient exclus du système international et qui utilisent la mondialisation pour rentrer dans le système international. En cela, Bandung a eu une suite, mais je pense que les pays du Nord continuent à ne pas avoir compris Bandung, c'est-à-dire à considérer qu'ils ont le monopole de la violence internationale légitime.
Delphine Alès, vous pensez la même chose ?
Oui, et pour prolonger, j'ajouterais néanmoins que l'histoire ne s'arrête pas et que l'aspiration à l'autonomie demeure, y compris à l'égard de la Chine. Et que les critiques qui émergent, notamment en Asie du Sud-Est, vis-à-vis de ces velléités de domination chinoise, sont aussi l'incarnation de cette aspiration à l'autonomie, aujourd'hui notamment contre Pékin.
Mon cher Didier, quelques mots de conclusion à cet échange passionnant.
Mais mon cher Gérard, que reste-t-il du projet universaliste et de Bandung? C'était un peu le sens de notre conversation, la manifestation du refus que le Nord arbitre tout. En ce sens, Bandung a été une sorte de mèche lente avec des étapes qu'on a un peu parcourues contre cette hégémonie. Et puis après, il y a eu cette tentative de Sud global dont on a parlé, mais qui n'est pas encore totalement opérant, au sens où on ne manifeste pas la même volonté de peser sur l'ensemble des pays qu'on appelait le Nord. Et puis la Chine, comme on l'a dit, était déjà extrêmement présente à Bandung, mais on peut dire que sur les décennies qui ont suivi, elle n'a cessé d'affirmer son poids pour être aujourd'hui un des acteurs dominants des relations internationales. On l'a encore vu et on le voit actuellement en ce qui concerne la guerre d'Ukraine et même les BRICS, comme on dit, c'est-à-dire la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, n'ont pas encore réussi à trouver cette cohérence. On y ajoutera peut-être l'Égypte demain pour peser de manière, je dirais, aussi pertinente que l'a été à un moment donné Bandung dans l'ensemble des relations internationales. On peut dire quand même malgré tout qu'il y avait à Bandung l'espérance d'un monde meilleur et que cette espérance ne s'est pas totalement réalisée.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci Delphine Alès, merci Bertrand Badie. C'était Les Manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et de Didier Lesky.
Préparation, Seam Boutata. Prise de son, Amandine Frichou. Réalisation, Guillaume Baldi. Demain, le manifeste des 343.